Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Attachez vos ceintures, chaussez vos bottes des 7 lieues et suivez-nous dans le monde du petit poussé. Après avoir déchiffré dans le détail ce conte à partir de la version de Charles Perrault, nous avons entamé avec le docteur Dominique Desmichel une exploration d'un autre ordre, plus profonde, sous les couches inférieures de l'âme au niveau psychique. Il y a 15 jours, c'est le petit poussé qui s'allongeait sur le divan du psy et aujourd'hui c'est au tour du père de nous livrer quelques-uns de secrets de son âme. Bonjour docteur Dominique Desmichel.
Oui, bonjour.
Vous êtes prêt pour psychanalyser l'ogre? Attention.
C'est vrai qu'on voit en général beaucoup plus souvent les petits poussés que les pères ou que les ogres ou que les rois. Hein. Voilà. Et je dis ça en introduction pour proposer l'idée qu'il y a une espèce de filiation et que dans une certaine mesure le petit poussé, le père ogre, le père beauté et le père roi, hein, puisque j'ai nommé un petit peu ces quatre ou cinq personnages si on compte le petit poussé, ça peut représenter une partie de tout être humain,
une
en tout cas de
personne.
Tout homme.
Ouais, hein, une seule et ouais. Même personne. Mais cela dit, si on différencie le petit poussé du père, est-ce qu'il y a un coupable sur un divan d'un psy, c'est tout à fait envisageable? Pas du tout, non.
Un coupable?
Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on a que des victimes qui ont besoin de se confier ou on pourrait avoir aussi un...
Je sais pas très bien, j'entends dans votre question deux parties.
Parce que le père est un peu coupable, d'abandonner ses enfants,
bah oui.
si on différencie, puis si on prend le père ogre, évidemment, celui de manger de la chair humaine.
Oui, tout à fait. Disons que dans nos cabinets, il me semble qu'on voit plus souvent les victimes.
Les victimes, évidemment.
Mais des ogres, des vrais ogres, dans le sens le plus concret du terme, oui, moi j'en ai eu quelques-uns. Hein. C'est difficile parce que le vrai ogre, si on le pense justement comme celui qui aime la chair fraîche, c'est-à-dire celui qui est le pédophile, alors c'est fondamentalement un pervers. Une des définitions du pervers, par exemple, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire le pervers, c'est tout pour lui. Et surtout, il n'y a pas d'accès à la culpabilité. C'est-à-dire que le pervers, il fait ce que bon lui semble. Et jamais il remet en question ses actes, vous voyez. Donc j'allais dire...
C'est impossible à ouvrir le dialogue, quoi.
Bah
c'est très compliqué.
On peut rien faire. On peut rien faire. Hein. Ouais. Dans l'idée de dialogue, il y a toujours Pour qu'un dialogue se fasse, il faut pratiquement toujours que j'accepte que l'autre possède une vérité qui m'interpelle et qui souvent me manque. Hein. Voilà. Donc, peut-être je redis ça. Dans le dialogue, il faut que j'accepte que l'autre avec lequel je parle, il possède une vérité sur moi qui m'interpelle, qui va me questionner et qui souvent me manque. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. Le pervers, nous, il a une vérité totalisante et surtout totalitaire, qui est sa vérité, point, et l'autre, il s'en fout, en gros, il n'y a que des objets autour de lui. Je rappelle d'ailleurs, c'est des petites anecdotes, mais j'aime bien, c'est des petits jeux sur les mots, que l'anagramme de la chose, c'est le chaos. Voilà, hein, donc vous voyez, quand on est la chose de l'autre, ça devient tout de suite quelque chose de chaotique.
Alors repartons sur le principe qui est le vôtre, docteur Dominique Desmichel, depuis la lecture de ce conte, c'est-à-dire que le petit poussé, le père bûcheron, le père ogre et peut-être la mère ne sont que les multiples facettes d'une seule personnalité et que le petit poussé accomplit en fait un travail sur lui-même à travers cette aventure initiatique pour... justement, eh bien, s'en sortir, sortir de l'abandon. Cet abandon causé, donc nous revenons à notre père, par le père bûcheron au début de cette histoire.
Voilà, c'est ça, au tout début de l'histoire, on a vu que c'est le père bûcheron, hein, j'insiste bien, père bûcheron, pour qu'on comprenne à quelle partie du récit ça correspond. Le père bûcheron décide de l'abandon par deux fois, alors que la mère, on pourrait dire, elle résiste un petit peu mollement peut-être, mais en tout cas, elle résiste un peu. Et on va s'apercevoir que dès que les enfants sont abandonnés, la mère, elle disparaît complètement du récit. Donc le père bûcheron, il est bien dans le rôle de celui qui abandonne les enfants. Et puis ensuite, tous les retours du petit poussé à la maison, ça va être dans la maison du père. Donc on sent qu'il y a un personnage qui est fondamental et que là, il apparaît bien comme étant une mauvaise mère. C'est-à-dire que sa capacité à tenir, à contenir toute la famille, à assurer la sécurité, n'est pas assurée. Et puis au fur et à mesure des différentes étapes, quand le petit poussé sort de la forêt et qu'il a des bottes et qu'il pourrait revenir chez lui, il doit revenir dans la maison du père. Un petit peu plus tard, quand le royaume est guéri et qu'il y a la possibilité d'une fin, et c'est la fin du conte, alors là aussi, le petit poussé revient dans la maison du père.
Alors vous dites la maison du père, mais qu'est-ce qu'elle représente, cette maison du père, à l'échelle du petit poussé, de l'identité du petit poussé?
Ce qui me semble, en effet, c'est que le conte, ici, il a l'air de parler d'un espace de sécurité où le père, ici, représente celui qui assure la survie des enfants. Hein. Alors, d'habitude, ce rôle est plutôt imparti à la mère, plutôt associé à la mère, qui est garante, j'allais dire, de la sécurité, au moins du corps des enfants. Mais ici, c'est le père. Voilà. Alors, on peut le penser dans une fonction de responsabilité, on peut le penser dans une fonction maternelle ou maternante, hein, peu importe que ça soit un homme. Voilà, c'est comme ça dans ce conte, et donc je pense qu'il faut le prendre comme ça. On voit d'ailleurs des petits éléments qui comptent. Hein. À un moment, on apprend que sa bourse est vide, et on peut penser aussi que sa bourse, c'est aussi ses bourses, c'est-à-dire l'endroit qui contient ses testicules, c'est-à-dire sa virilité. Mais sa virilité est vide. Donc vous voyez, ça tiendrait... Il s'agirait pour le conteur de raconter quelque chose autour aussi quand même de la virilité du père.
Alors, venons-en au niveau archétypique du père.
Voilà, alors pour le niveau archétypique, c'est-à-dire le niveau plus en profondeur, on retrouve ici le père ogre. Le père ogre, on l'a vu, on pense qu'il va dévorer les enfants, mais non, il les égorge, c'est-à-dire il monte avec son couteau, c'est-à-dire c'est un pédophile qui viole les enfants, il est soumis à ses pulsions nocturnes, il délaisse sa femme qui a une chair trop vieille, hein, on est bien dans quelque chose autour de la sexualité. Et puis quand il viole ses filles, eh bien ça saigne. Et d'ailleurs, la majorité des pédophiles, dans la réalité concrète de la vie tragique des familles dans lesquelles ça surgit, n'ont le plus souvent guère de préférence sexuelle, que ce soit un garçon ou une fille, ça n'a pas beaucoup d'importance pour les pédophiles.
Coat of blue. Long, long years have vanished and though he comes no more, yet my anxious heart will start with each footfall at my door. I gazed o'er the hilltops where he waved his last adieu, but no gallant lad I see in his faded coat of blue. No more the bugle calls the weary morn. Rest, lonely spirits in thy grave unknown. I'll know you and find you among the good and true. When the robe of white is given for the faded coat of blue.
Alors, on a donc ces deux premières figures, c'est-à-dire la figure du père bûcheron, qui est le père du départ, la figure du père ogre, dont vous avez dit en effet qu'il était le représentant, c'est la même chose que le père bûcheron, mais à un niveau plus archaïque, plus archétypique, on dit dans notre jargon. Et puis, il y a d'autres personnages qui arrivent. Les sept filles, on en a déjà parlé, elles représentent en tout cas un élément féminin. Ce sont les sept filles de l'ogre. Il n'est pas dit que ce sont les sept filles de la femme de l'ogre. Elles ressemblent au père ogre et tout a l'air d'être fait pour qu'elles deviennent de vraies ogresses. Elles ne sont pas différenciées, elles sont toutes pareilles. Et alors que dans la famille du père bûcheron, dans la réalité, hors de la forêt, si on prend l'image, il y a un petit poussé qui se différencie des six autres, là, il n'y a pas de petite poussette qui pourrait se différencier. On pourrait très bien imaginer, comme ça, un conte dans lequel le petit poussé rencontre une petite poussette et que ce soit ce couple qui vienne résoudre les choses. Il pourrait faire alliance, il pourrait, entre guillemets, se marier. Et là, le conte pourrait évoluer comme ça. Il y a beaucoup de contes dans lesquels il y a un frère et une sœur symboliques qui s'aident mutuellement. Ou une sœur, par exemple, dans le conte des sept cygnes, eh bien, c'est la sœur qui va réparer et permettre de dépasser la malédiction qui porte sur ses frères. Voilà, donc je pense que ce passage veut dire que le père ogre, il a une part féminine, représentée par ses filles, mais que cette part féminine lui ressemble. Et au fond, dans sa pulsion sexuelle de pédophile, il va sacrifier cette part féminine dès que l'action commence. Et on a envie de se dire, eh ben, cet ogre, il est quand même bien mal parti pour avancer dans l'existence.
Et puis, il y a les bottes.
Voilà. Alors, le deuxième élément, c'est les bottes.
Le fameux objet magique que l'on retrouve dans tout conte qui se respecte.
Exactement. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez bien raison de dire ça. Je pense que on a vu qu'à partir du moment où les bottes arrivent, et surtout où le petit poussé va mettre ses bottes, le conte change. On a vu qu'il a changé pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a la possibilité d'une fuite. Et deuxièmement, parce que le petit poussé va retourner voir la femme de l'ogre, et ensuite, il va aller voir le roi, et il va sauver le royaume, tout ça avec ses bottes. Voilà, alors, ce qui est étonnant à propos de ces bottes, c'est qu'elles ne servent pas à fuir. Elles servent, semble-t-il, à couvrir une grande distance. Donc c'est comme si d'un seul coup, le petit poussé était devenu un grand petit poussé ou un grand enfant qui est capable d'assumer quelque chose. Je pense que par le fait qu'elles sont contenantes, c'est-à-dire c'est comme un vase, elles sont comme une sorte de ventre maternel, et il me semble qu'on pourrait se dire qu'elles représentent quelque chose du féminin ou du maternel, puisqu'elles vont contenir les enfants, en tout cas au moins le petit poussé. Il y a des versions d'ailleurs du petit poussé dans lequel le petit poussé met ses frères et sœurs dans ses bottes. Donc vous voyez, on voit bien que lui, il est là, il est le responsable de ce grand utérus ou ce grand espace maternel et il se déplace, voilà. On peut penser aussi qu'en tant qu'objet magique, il pourrait représenter un féminin vivant du côté du père. Que ça soit du féminin vivant du père bûcheron qui a manqué, ou que ce soit ce féminin vivant chez le père ogre, qui manque cruellement, puisque pour l'instant, le seul féminin qu'on a vivant, c'est ses filles, et ses filles, elles sont quand même franchement pas joyeuses du tout.
Alors on peut rappeler que le père ogre s'épuise, malgré ses bottes des sept lieues, à courir après le petit poussé et ses frères.
Oui,
il use toute son énergie, voilà. Lui les bottes ne servent à rien quasiment.
Voilà, exactement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire lui il a la capacité à faire quelque chose puisqu'il a, il aurait ce féminin contenant vivant et qui lui permettrait de courir et de se déplacer, mais il est pas capable d'en faire quoi que ce soit. Et donc il va passer ce que j'avais appelé dans les émissions précédentes, une espèce de temps de mort, on dit plutôt sur le plan psychique un temps de régression, c'est-à-dire il va revenir au même plan que les enfants, puisqu'il s'endort près du même rocher ou dans ou sous le même rocher, donc cette espèce de grand lieu dans lequel il y a un processus de réparation.
Alors il y a un autre personnage masculin qui est aussi une figure de père, c'est le seigneur du village, qu'on le retrouve et au début de l'histoire et à la fin sous le visage du roi.
Voilà, moi je crois qu'en effet ces deux personnages sont à relier, sinon ils apparaissent un petit peu comme des cheveux sous la soupe. On pourrait se dire, ben... je sais pas trop quoi, on pourrait, dans le début de l'histoire, on pourrait se dire que si la famille du père bûcheron et de sa femme de nouveau peuvent manger, c'est parce que je sais pas trop quoi, le père bûcheron, il a trouvé un peu de travail, ou sa femme, elle a fait un peu de repassage quelque part, enfin, je ne sais pas. Non, là, c'est une dette, ça leur était dû, et ils en bénéficient. Donc, je crois que sur le plan psychique, ça veut dire que dans cette famille initiale, qui est la famille du père bûcheron, il y a une dette qui n'a pas été remboursée. Et cette dette, elle est de la part du Seigneur, c'est-à-dire d'un personnage plus puissant, d'un personnage plus mature, normalement, puisqu'il a une responsabilité. Et donc, moi, je le verrais bien comme une figure de grand-père, en quelque sorte. Hein. Donc, il me semble que cette histoire, si on l'écoute sur le plan psychique, elle dit quoi ? Elle dit que le père bûcheron, lui, évidemment, il a ses failles, il a sa blessure, il a le fait qu'il est incapable de s'occuper de ses enfants, mais c'est probablement aussi en raison du fait que son père, à lui, ou sa lignée paternelle, est en dette vis-à-vis de lui. Et donc, quand son père lui redonne enfin quelque chose qui lui est dû, alors il est possible qu'il y ait quelque chose qui avance. Hein ? Donc, première étape avec ce personnage-là. Et ensuite, il y a le personnage du roi à la fin. Et on voit bien cette symétrie, puisque le premier rembourse sa dette, et le deuxième, le roi à la fin, donc le père roi, hein, père bûcheron, père ogre, père beauté et père roi, le père roi à la fin, il est en demande. Il va demander quelque chose au petit poussé, et grâce à cette partie féminine, c'est-à-dire celle qui fait du lien, hein, la partie féminine, c'est celle qui est porteur de ce qu'on appelle l'éros, à l'opposé du logos, le logos étant la parole, la pensée, le discours, l'éros c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui fait les sentiments, c'est ce qui est porteur des émotions. Cet éros-là est représenté par les bottes. Et il y a une faille du côté de cet éros dans ce royaume, puisqu'il y a une guerre, puisque on l'a vu, il n'y a pas de féminin, hein, il n'y a pas de reine, on a dit, mais ici, il n'y a pas de féminin. Donc on retrouve, vous voyez, la même situation qu'au départ, c'est-à-dire on est dans une famille nucléaire dans laquelle il y a une figure masculine, mais où les figures féminines ne tiennent pas la route. Hein. La femme du père bûcheron, c'est pas terrible, il n'y a pas de reine, et donc il s'agit de refaire du lien. Et on voit des figures qui sont là en train d'émerger, ce sont les figures qui réclament un lien, c'est-à-dire les soldats avec leurs fiancés, les hommes avec leurs femmes. Voilà. Donc le rôle du petit poussé, c'est de faire du lien.
She was always walking, singing to her footsteps, dirt ditch paths and pine cones, digging up glass bottles, rusty springs from feather beds, old hubcaps on the picket fence. She planted beds of flowers, stayed outside for hours. In spirit, she's drifted to the ocean. All those years of waiting for the water, she's watching. Darkness of the winter, painting all these mermaids wandering to the seashore. She wanted him to follow, but his heart is with the hillside. In spirit, she's drifted to the ocean. Lost up in the mountain, the sunset on the ocean, gathering shells and beach glass and dancing with the rolling waves. It gives her peace of mind, but she will always love him. Lost up in the mountain, oh, she will always love him. Lost up in the mountain.
Docteur Dominique Michel, nous avons pu voir donc les différentes facettes du visage du père du petit poussé. Alors, en résumé, qu'est-ce que vous lui diagnostiquez à ce père ogre?
Tout petit mot en arrière qui est en articulation vraiment à votre question, avec votre question, c'est la question du récit. Quand le petit poussé retourne voir la femme de l'ogre, il invente une histoire. Et il invente une histoire qui, bien évidemment, n'est pas là par hasard. Il dit quoi ? Il dit « le père ogre est en danger, il est en danger d'être violé ». Donc, puisqu'il y a les voleurs qui ont aussi un poignard, le même poignard qu'avait l'ogre dans la nuit précédente. Donc vous voyez, il y a là quelque chose qui est vraiment important à retenir, c'est-à-dire que par rapport à une situation familiale qui a été difficile, qui a été douloureuse, quand les gens vont voir un psychothérapeute, un psychanalyste, voilà, d'abord et avant tout, ils vont faire récit. C'est-à-dire ils vont re-raconter ce qui se sont passés et ils vont essayer de mettre ça en perspective. Voilà, donc je crois que c'est important. Et si on veut résumer ce conte, c'est-à-dire en faire là aussi une sorte de récit, qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? J'aurais envie de dire, dans cette famille, il y a un danger qui est autour du fait que les pères, ou les parents en tout cas, peuvent violer leurs enfants, c'est-à-dire, pas obligatoirement dans une sorte de viol physique, hein, même si c'est souvent le cas des pères, mais éventuellement sous la forme d'un viol psychique. C'est souvent le cas des mères, hein, des mères qui pénètrent leurs enfants psychiquement, hein, même s'il n'y a pas de violence physique. Et que toute la trame de ce récit consiste à dire, il y a le père bûcheron qui est malade parce qu'il tient pas cette capacité à tenir, à s'occuper de ses enfants. Ensuite, il va on va retourner sur la scène de son inconscient, et dans son inconscient, on voit ce qui le représente, à savoir cet homme est un ogre. Mais cet homme est un ogre et il n'est pas que tout noir. Hein, il est noir dans le fait qu'il possède un poignard, mais il n'est pas tout noir puisqu'il a aussi des bottes. Et que ces bottes, si elles sont reprises par un élément vivant à l'intérieur de lui-même, alors tout peut se résoudre. C'est pour ça qu'on pourrait très bien imaginer, moi je pourrais très bien concevoir, qu'un homme vienne me voir avec une histoire similaire et qui me raconte un rêve. Et me racontant un rêve, il me dirait, voilà, au début de mon rêve, je suis abandonné par mes parents. Et puis je me retrouve dans une forêt. Et je me retrouve devant un monstre. Et puis ce monstre, il me court après. Et puis j'arrive à fuir. Et puis je ne sais pas pourquoi, je récupère ses bottes. Et en récupérant ses bottes, je me retrouve dans une autre partie du rêve, avec un roi. Et puis ce roi, il me dit qu'il est en guerre et qu'il faut que je m'occupe. Et je vais résoudre le problème de la guerre. Et puis à la fin, eh bien, j'ai grandi. Hein? Donc on peut très bien imaginer que ce conte, ça puisse être un grand rêve, comme les grands rêves inauguraux qu'ont souvent les patients quand ils viennent consulter, qui sont là en quelque sorte pour résumer toute leur histoire.
Ainsi s'achève notre émission, et c'est aussi notre série consacrée au petit poucet qui touche à sa fin. Qu'à cela ne tienne, les 6 émissions consacrées au petit poucet sont d'ores et déjà disponibles sur notre site internet www.radiograndciel.fr, rubrique règlement de compte. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, et d'ici là, gardez-vous des vilains ogres qui voudraient vous manger. For not caring for it, yeah, maybe I'm a bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin, and those bright blue eyes can only meet mine across a room filled with people that are less important than you. Oh, 'cause you love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. Love, love, love when you know I can't love you. It's best we both forget before we dwell on it. The way you held me so tight all through the night till it was near morning. 'Cause you love, love, love.